Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Et si vous investissiez un peu de temps sur la chose la plus importante pour votre future vie créative, le mail. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 612. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des envies, des projets. Et vous savez que je suis là pour vous aider, hein, justement, comment développer ces projets, comment créer du contenu, comment développer votre marque personnelle, comment développer votre visibilité sur Internet et comment aussi développer vos produits, comment développer les discussions autour de vos produits, comment vendre, comment aussi avoir des soutiens sur Patreon, tout un tas de sujets qui sont vraiment très importants pour développer votre vie créative. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui est vraiment lié à tout cela, c'est le mail. Et pour le faire, je vous propose aujourd'hui un nouveau concept d'épisode. Vous avez l'habitude des Ask Bertrand, vous savez, ce sont des questions, vous m'envoyez une question par mail, vous m'envoyez une question audio, et puis moi je réponds. Mais en fait, vous me posez la question, puis moi je répondais plus tard. Là, ce que je vous propose, en fait, c'est de le faire sous le format discussion. Donc je vous invite à venir sur le podcast, vous me posez vos questions, on parle d'un sujet, et en fait, comme ça, on peut discuter du sujet directement. Comme ça, si vous avez plusieurs questions, c'est pas un problème. S'il y a des choses que vous comprenez pas, et ben je peux rebondir, vous pouvez me poser des questions, c'est comme une sorte de mini coaching. Et en même temps, ça vous permet aussi de dire ben, où est-ce qu'on peut vous suivre, comment on peut voir ce que vous faites vous. Donc ça vous fait aussi un petit peu de pub. Donc vous pouvez bien entendu venir postuler, hein, m'envoyer un petit message si vous avez envie de participer, il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, pour commencer cette série de nouveaux épisodes, c'est mon compère Hermano, hein, qui avait une belle liste de questions sur l'email. Et en fait, je dois vous dire qu'il a une liste de questions qui était longue comme le bras, parce que le sujet central d'Hermano, la question centrale d'Hermano, c'est finalement comment j'utilise le mail pour développer mon projet. Et c'est de ça dont on a parlé dans cet épisode, dans cette discussion. Mais avant, je voudrais vous raconter une histoire personnelle et vous dire pourquoi le mail est vraiment, vraiment important et pourquoi c'est vraiment un sujet qui est très important. Et surtout pourquoi, pour moi, c'est un vraiment très gros regret. En fait, je n'ai vraiment commencé à faire du mail que 2 ans après le lancement du podcast et à un moment où il était vraiment trop tard. En fait, je me suis retrouvé au pied du mur. Je ne vendais pas ma première formation, j'étais dans le brouillard sur vos besoins, comment vous aider, j'étais totalement dépité. Et j'ai alors commencé à collecter des mails, j'ai fait des petits lead magnets, c'est-à-dire des petits formulaires avec des PDF derrière, qui permettaient finalement de récupérer quelques mails, et j'ai commencé à vous envoyer des mails régulièrement. Et je dois le dire, ça a tout changé. On dit que l'argent est dans le mail, mais en fait, il n'y a pas que l'argent et les ventes qui sont dans le mail. Il y a les idées qui sont dans le mail, il y a les discussions, il y a les futurs projets, il y a vos futurs super fans aussi qui sont dans le mail, parce que c'est là que se créent les discussions, les échanges, l'habitude aussi de savoir ce que vous pensez, de savoir comment vous pouvez aider les gens, et en fait, l'habitude de créer une discussion avec eux. Donc, c'est vraiment un élément qui est vraiment extrêmement important. Moi, je regrette de l'avoir commencé beaucoup, beaucoup trop tard. Hein. J'ai pris beaucoup de retard là-dedans. Et vraiment, je voudrais vous aider à avancer sur ce point-là et que vous ne vous retrouviez pas comme moi dans la panade, hein, pour pas dire dans la merde. Si vous ne faites pas encore de mail et que vous voulez vous lancer et que ce dont on va discuter avec Hermano aujourd'hui vous intéresse, j'ai fait une formation sur le sujet qui s'appelle 7 jours pour lancer sa base mail avec la mise en place d'un autorépondeur, d'un lead magnet ou ce qu'on appellerait un aimant à client. En fait, elle vous montre pas à pas comment mettre tout ça en place, comment convertir des inconnus qui vous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les auditeurs de votre podcast en contacts connus avec lesquels vous pouvez discuter, échanger, à qui vous allez envoyer régulièrement des nouvelles et qui vont pouvoir échanger avec vous. Et puis, si un jour vous avez besoin d'un coup de main pour votre Patreon, pour la future sortie de votre livre, pour une formation que vous voulez vendre, pour faire du coaching, pour un nouveau projet ou pour tout simplement qu'ils viennent voir votre nouvelle vidéo ou qu'ils viennent écouter votre nouvel épisode de podcast, et ben vous pouvez leur envoyer un message. Et en fait, ils seront ravis d'avoir de vos nouvelles. Et donc, vous pourrez ainsi échanger avec eux, développer une vraie relation. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui est très important dans le mail. Donc, si tout ça vous intéresse, tout se trouve à l'adresse suivante, votrecoachweb.com/aimant, votrecoachweb.com/aimant, aimant, A-I-M-A-N-T, aimant, hein, comme vraiment un aimant à contact, hein, pour attirer les gens vers vos mails, hein, que vous puissiez ensuite échanger, discuter, partager et leur proposer, en fait, tout ce que vous avez envie de leur proposer dans le futur pour en ayant construit une belle relation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la fameuse audience chaude, hein, c'est-à-dire des gens qui vous connaissent, qui vous apprécient et avec lesquels vous échangez régulièrement. Et donc, quand vous avez quelque chose à leur proposer, eh ben, ils ont l'oreille grande ouverte. Et maintenant que tout ceci est dit, je vous propose d'écouter ma discussion avec Hermano, où justement, on a discuté de toute cette stratégie de mail et pourquoi c'est important et comment on fait pour démarrer. Allez, c'est parti. Salut Hermano.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu ?
Je vais très très bien. Je suis toujours dans le sud de la France pour quelques jours. Je profite du beau temps et c'est super agréable. Ça fait du bien parce qu'après les inondations qu'il y a eu dans le nord-est de la France et en Allemagne et en Belgique, et ben moi j'en ai profité pour m'échapper et prendre le soleil.
Alors aujourd'hui, je t'ai invité dans cet épisode qui est un épisode en fait de Ask Bertrand, hein, des questions. En fait, c'est le nouveau format. Donc tu inaugures le nouveau format. Comme on se connaît bien, c'est pratique parce que comme ça, on est tranquille. Le principe en fait de ce format de l'été, c'est que vous venez avec vos questions et on en discute pendant 15-20 minutes. Voilà.
Ça va.
Et sur une thématique qui est importante pour moi, qui est le mail. Alors je sais que tu as plein de questions dessus, mais avant de poser les questions sur le mail, je vais te dire. Vais te proposer de te présenter.
Tu vas me proposer plutôt, de me proposer, d'accord.
De dire finalement sur quel projet tu travailles et pourquoi, à quoi te serviraient les mails et sur quel projet tu en as besoin.
Alors écoute, j'ai plein de projets en cours, mais celui qui m'occupe vraiment en ce moment, c'est mon défi Agrippa, qui est une traversée de la France du nord au sud sur un mois, en mai 2022. Et l'objectif niveau création de contenu, eh ben, c'est de créer une communauté, d'animer une communauté pour pouvoir faire en sorte que des gens me suivent, me soutiennent si c'est possible via Patreon ou autre. Et puis pour ça, il y a effectivement les réseaux sociaux, il y a le podcast qui va voir le jour incessamment sous peu, j'espère bientôt, très vite. et puis il y a, comme j'écoute beaucoup quelqu'un qui parle beaucoup en beaucoup de bien et qui dit beaucoup de bien du mail, je me pose la question du mail. Mais en fait, je ne me pose pas la question, je me pose les questions. J'ai plein de questions sur le mail. Le mail, je pense qu'on connaît tous, on sait l'utiliser, on en reçoit, on en envoie. Moi, je me pose plutôt la question du mail, de la base mail et de communiquer avec ma communauté par mail et de pouvoir... vraiment, quand je dis communiquer, c'est moi envoyer des informations, poser des questions et avoir des retours de la part de mes abonnés.
Oui, mais en fait, c'est tout à fait le but d'une base mail. Je vais rappeler un élément qui est fondamental pour bien positionner l'histoire, c'est que on a trois grands axes de communication, d'outils hein, qui existent sur Internet. On a bien sûr avoir un site Internet, on a aussi les réseaux sociaux, et le troisième axe, c'est le mail, qui est souvent sous-estimé, parce que les gens trouvent qu'ils reçoivent trop de mails. Mais s'ils reçoivent trop de mails, les gens, c'est que tout le monde est sur son mail tous les jours. Tu as peut-être regardé déjà tes mails ce matin, peut-être déjà plusieurs fois, tu as peut-être plusieurs boîtes mails sur ton téléphone. Donc ça, c'est une logique, c'est que tout le monde a les yeux rivés sur le mail. Hein. On dit même que les cadres passent peut-être plus de temps à regarder les mails qu'à travailler vraiment sur les sujets pour lesquels ils devraient être... J'ai envie de dire encadré, hein, vraiment. Ou en tout cas, j'avais vu des stats hein, disant qu'il y en a, ils passent 3 heures par jour sur leur mail, hein, alors que les gens disent qu'on a l'impression que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment très important. Et la grande différence entre le mail et les autres outils qu'on a cités, c'est que, en fait, j'ai envie de dire que tu es presque pas propriétaire, mais en tout cas, tu as un élément que tu n'as pas sur les autres outils, c'est d'être capable d'initier la discussion, c'est-à-dire d'être capable d'envoyer un message directement, ce que tu peux pas faire sur ton site internet, où les gens viennent quand tu mets de l'information, et sur les réseaux sociaux, où en fait, tu as un intermédiaire qui s'appelle Facebook, Instagram, etc., Twitter, et qui peut décider par l'algorithme de savoir si il te montre ou pas, et puis surtout, tu peux, la plupart du temps, seulement répondre aux gens quand ils t'envoient un message, mais rarement en fait envoyer un message à toute ta base. Donc on va dire que si tu as par exemple 500 abonnés sur ta base, sur ton compte Instagram, tu peux pas leur envoyer un message. Alors que forcément, si tu as 500 abonnés à liste mail, tu peux leur envoyer un mail.
Ouais, c'est vrai. Et puis moi, pour compléter ce que tu dis, je dirais que le mail me sert aussi beaucoup de to-do list. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mails, mais c'est l'avantage qu'on peut avoir peut-être plus par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport aux plateformes d'échange comme WhatsApp, comme Telegram ou même comme la messagerie interne des réseaux sociaux. C'est qu'on arrive facilement à retrouver les informations et puis à les classifier dans des dossiers, à mettre des rappels, ce genre de choses qu'on peut pas faire avec les autres systèmes de messagerie. Mmh.
Alors, quand tu pars de ce principe-là, maintenant, en fait, dans toutes les questions, parce que tu avais des questions notamment sur comment est-ce qu'on constitue une première base mail ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est un rappel, vraiment un rappel, c'est la différence entre ce qu'on appellerait du trafic, de l'audience et des contacts, et qui est vraiment un élément important. Une base mail, en fait, c'est une base où tu as au moins l'adresse mail et au moins et souvent on demande le prénom. Comme ça, on peut personnaliser les messages. Sur les réseaux sociaux, en fait, tu, sur ton site, tu as du trafic, des gens qui passent. Et en fait, ton ambition à toi, c'est de te dire, mais s'ils ont aimé ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont vu, s'ils ont envie de te soutenir ton projet, comment tu fais, en fait, pour les tenir au courant?
Ouais, tout à fait.
C'est ça, en fait, ton ambition.
Mon ambition, c'est ça. C'est... comme tu le dis, constituer la première base mail, la première mouture de la base mail pour pouvoir échanger avec ma communauté, les tenir au courant. Et puis, quand je dis échanger, comme je disais tout à l'heure, c'est avoir aussi leur retour d'informations. Soit eux, ils me contactent quand ils en ont envie, quand ils ont une question, et dans ce cas-là, je peux y répondre. Soit moi, j'envoie une information ou je pose une question ou je donne des insights sur l'avancement du projet et mes abonnés à mes mails pourront éventuellement répondre, sont libres de me faire les retours qu'ils veulent, qu'ils souhaitent bien faire.
Oui, et puis tu peux faire plein d'autres choses en fait dans tes mails. Tu pourrais imaginer qu'en fait tes mails, alors tu peux vendre ou sans vendre forcément, mais tu peux dire grâce à mes mails, je vais pouvoir leur rappeler que j'ai un Patreon et qu'ils peuvent m'aider au financement. Tu vas pouvoir leur rappeler que tu as fait des jolis t-shirts et que tu peux leur en vendre un s'ils veulent t'aider à financer, parce que tu as une partie du t-shirt qui va venir t'aider à financer ton projet. Tu peux leur dire que tu es à tel endroit à tel jour pour qu'ils viennent te rejoindre et venir courir ou nager avec toi. Tu peux donc ça c'est pendant le projet, mais avant le projet, donc on a parlé du financement, on a parlé donc de l'appel, dire voilà, j'ai des nouveaux produits, tu peux les amener sur tes nouveaux contenus, dire voilà, je viens de faire un podcast, un épisode sur tel sujet, venez le voir, je viens de faire une vidéo sur tel sujet, venez la voir. Ce qui va aider les algorithmes de YouTube d'ailleurs, parce que si tu amènes du trafic sur YouTube à ta vidéo, et si tu amènes sur une vidéo sans première visite, forcément YouTube, ils vont aimer plus ta vidéo, ça c'est sûr qu'ils vont la pousser plus. Toi, ça te permet de faire du trafic sur ton blog aussi, donc ça c'est un aspect qui est important. Puis comme tu le dis, ça te permet de poser des questions. C'est-à-dire que tu peux dire, j'ai un doute là-dessus, alors que ça peut être sûr. Et pour tout le monde, on a plein de choses. On a, j'ai un doute sur mon logo, j'ai un doute sur ce que je veux faire, j'ai un doute sur le futur épisode, je cherche des invités pour un épisode de podcast ou une vidéo, je cherche des idées, avez-vous des questions? Quel est votre problème principal? Si on élargissait un petit peu à ce qu'on fait en infoprenariat, par exemple, ou ce que je fais moi, tu pourrais aussi avoir des... non pas des questions, mais une sorte de petit sondage pour prendre un petit peu l'air, avoir des recommandations. Moi, un des premiers mails que je fais, c'est de demander quel livre vous me recommandez pour casser un petit peu la glace, etc. Donc, tu peux imaginer beaucoup de choses avec le mail. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'initier. Contrairement à ce que tu m'as dit, tu dis oui, bon, les gens, ils pourraient m'envoyer un petit message. Par les réseaux sociaux, ils pourront le faire. Alors que là, par le mail, c'est toi qui peux initier la discussion en leur disant, écoutez, voilà, moi j'ai besoin d'un coup de main là-dessus, ou alors j'ai une question là-dessus, ou alors je suis à tel endroit, etc. Et là, c'est toi qui envoie le message.
Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est l'intérêt du mail, c'est que on peut initier, enfin n'importe lequel des intervenants dans le mail peut initier l'échange, et après le receveur, enfin celui qui reçoit le mail, est libre de répondre à la fréquence au moment qu'il le souhaite, le matin, le midi, le soir, là où sur les réseaux sociaux on est beaucoup plus dans l'instantanéité tout de même. Et puis comme tu le disais, l'avantage des mails, c'est que on se constitue une base et on peut la contacter rapidement, ce qu'on peut pas forcément faire sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, ma première question, c'était ça, c'était comment est-ce que l'on constitue une première vraie belle base mail? Parce que avoir 3 amis qu'on inscrit d'office dans un message qu'on va envoyer pour leur donner des informations, je suis pas certain que ce soit ça ce qu'on appelle se constituer une vraie belle base mail. Et puis comment on la fait grossir?
Alors, toujours un peu le problème majeur, c'est-à-dire que c'est la relation entre le trafic que tu as d'un côté et l'audience que tu vas générer de l'autre, et comment tu vas convertir les uns aux autres. Celui qui part de zéro, une base mail, c'est très compliqué à monter parce que dedans, tu vas pouvoir mettre en fait que tes amis, puisque personne ne te connaît, ce qui est logique. Quand tu n'es pas connu, bon, au début, tu mets tes amis et tu vas leur dire, Tu peux mettre un message à chaque fois que tu leur envoies un petit mail en disant si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, faites-lui passer le message, etc. Inscrivez-le, etc. Une des questions qui se pose, c'est de dire en fait, pourquoi les gens ils auront un intérêt à s'abonner à tes mails. Et il y a plusieurs réponses en fait à la question. Et c'est là, c'est par rapport à ce que tu veux faire, comment tu veux le proposer, etc. Mais pour certains, en fait, on sera un peu dans le côté fan. Et quand je dis ça, c'est j'aime ce que tu fais, je veux suivre tes exploits, etc. Je m'inscris pour avoir des news. Là, okay. On est dans un premier cas. On aura le cas aussi, alors quand on est formateur, freelance ou des gens comme ça, ou infopreneur ou plein d'autres métiers, on aurait des gens à qui on va proposer en fait de l'information un petit peu premium ou un petit peu en relation un petit peu privilégiée. C'est de dire, si tu t'abonnes à mes mails, déjà je vais te faire un cadeau, ce qu'on appellera le fameux lead magnet, le fameux premier...
Le lead magnet dont parle beaucoup Monsieur Soulier.
Le premier contact, etc. Donc là, ça sera un petit cadeau. Alors, ce qui peut être... Les cadeaux peuvent être très variables. Le lead magnet peut être un PDF, ça peut être une vidéo privée, ça peut être... même le fait de recevoir des informations par mail, finalement, parce qu'on peut considérer que le mail peut être une mini-formation au fur et à mesure des jours en jours. Ça peut être de dire, dans certains cas, et là on était, il y avait beaucoup de boutiques qui le font, mais notamment je pense à des boutiques de maillots de bain qui à l'époque le faisaient toute l'année, qui t'offraient 5€ de réduction contre une inscription dans la liste mail. Donc dès que tu étais inscrit à leur base mail, tu envoyais un code de réduction de 5€. Mais ça marche aussi hein, sur le café, il y avait le café qui le faisait, il y avait plein de boutiques en ligne qui le font parce que c'est quelque chose qui marche assez bien. Même des bouquins, l'autre jour j'ai vu un truc sur les bouquins Momox, pour ceux qui veulent, le truc qui vend des bouquins d'occasion, le propose aussi. Donc le premier livre, il coûte pas très cher à acheter, mais derrière ensuite, le gros avantage c'est qu'une fois qu'ils ont ce mail, ils arrivent tout simplement à te recontacter plus facilement.
Du coup, le coût d'acquisition des abonnés est quand même assez élevé.
Oui, si tu es dans une stratégie où tu donnes 5€ pour que quelqu'un s'inscrive à ta base mail, c'est un coût qui peut être assez élevé. Alors après, il faut savoir combien il y en a qui convertissent. Hein, parce que si je te donne 5€ sur un maillot de bain à 50, bon, finalement, je te fais une réduction de 10%, ça rentre dans la marge. J'ai envie de dire, limite, ça peut être comme ça. Là où le coût peut être très élevé, c'est que quand tu pars de zéro comme ça, tu peux être tenté en fait, de dire... je vais mettre des pubs pour faire venir les gens en fait sur des ce qu'on appellerait des landing pages, c'est-à-dire des pages d'atterrissage sur lesquelles tu vas proposer de dire inscrivez-vous ou recevez mon cadeau ou bénéficiez de telle formation gratuitement, etc. contre votre mail. Et là, tu peux faire gonfler le coup parce que forcément, tu vas essayer d'aller taper sur plein de gens, etc. Et si si ton coût monte, si tu as une pub et qu'il coûte 1 ou 2€ par contact que tu ajoutes, forcément, derrière, tu as intérêt à vendre des trucs. Ouais. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que t'es pas, tu pars pas de zéro au sens où personne ne part vraiment de zéro parce que tu es déjà sur les réseaux sociaux, tu as un profil Facebook, tu es présent dans des groupes de discussion, tu es présent sur LinkedIn, tu es présent sur Twitter, tu peux être présent sur Instagram, etc. Et qu'en fait, tous ces espaces où tu es déjà présent peuvent très bien être pensés comme étant des espaces qui vont pouvoir ramener des gens. Tu vas aller les piocher en fait. Une solution qui marche très bien, ça peut être de dire de poster des petits bouts de trucs, de statuts sur Facebook avec des informations qui semblent intéressantes et de dire si vous voulez en savoir plus, cliquez sur ce lien et inscrivez-vous pour. Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles de moi. Il ne faut pas appeler ça newsletter non plus, quoi. Enfin, ou alors, ouais. Ça marche vraiment si tu étais une célébrité ou une diva. Voilà.
Mais je suis une diva à mon niveau. Non, je vais redescendre très modestement.
Tu es la diva du swimrun, mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que ça marche pour certains types de personnes, mais ça ne marche pas pour tout le monde. En fait, je veux dire. Je sais pas, moi je prends n'importe qui parce que ça me rappelle un épisode qu'on a fait récemment. Patrick Bruel dit je fais une newsletter où vous avez des informations exclusives. Les fans de Patrick Bruel vont s'inscrire,
bien sûr.
Moi je fais ça, j'ai plus de mal, hein, voilà. Donc la question qui va se poser quand même, c'est effectivement de savoir qu'est-ce qui va permettre d'attirer les gens. Mais certains, ça peut être de dire je vous donne des informations exclusives. Pour d'autres, ça peut être je vous envoie j'ai un cadeau, un truc qui va vous aider à faire telle ou telle chose, ou je sais pas quoi. Ça, c'est propre à chacun, ça, par contre, est propre surtout à ce que derrière tu veux proposer plus tard. C'est-à-dire que la constitution de cette base mail ne doit pas être décorrélée de ce qui va se passer, j'ai envie de dire, après ton projet. Mmh. Et on pourrait dire que la base mail peut être segmentée, que tu vas avoir ceux qui sont des gens qui veulent suivre en tant que fans, des gens qui seraient des sponsors, des gens qui seraient des gens intéressés plus comme particulier sur l'entreprise, si un jour tu voulais convertir ça en disant je vais faire des conférences sur mon projet, enfin tu vois. Mais ce qui veut dire que ton acquisition même à l'endroit où tu veux aller chercher les gens peut-être peut varier aussi en fonction des types de personnes que tu as envie d'avoir dans ta base mail.
Et est-ce que cette segmentation, justement, tu l'as fait au moment de la constitution de la base, au fil du temps de la constitution de la base, ou tu demandes aux gens de sélectionner dans quelle segmentation ils seraient, c'est-à-dire un peu comment vous m'avez découvert, et puis pourquoi est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est pour avoir des news? Est-ce que c'est pour envisager une conférence en entreprise? Est-ce que c'est parce que vous êtes impliqué dans l'environnement ou dans la recherche contre le cancer des enfants, ou est-ce que parce que vous voulez me financer, quoi?
Ben, tout marche. Alors on voyait beaucoup, je trouve qu'on le voit moins quand même, des mails où tu pouvais sélectionner quel type d'informations tu voulais recevoir, des formulaires d'inscription.
Ouais.
Je trouve qu'on le voit beaucoup moins depuis quelques temps. En fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est surtout de proposer des formulaires différents selon les types d'inscription, et on les place à des endroits différents. Ce que tu vas placer, et c'est là où aussi on va, tu as une question qui se pose, c'est par exemple ton compte Instagram, à quoi il sert, qui c'est que tu as sur ton compte Instagram et qui tu vas avoir dessus en fait. Tu peux considérer que sur ton compte Instagram, tu as des sportifs qui veulent suivre ton aventure. À partir de là, tous les inscrits qui vont venir de ton compte Instagram, tu peux être sûr que tu peux les segmenter dans des gens qui veulent avoir des news du projet. Même si, après, rien n'empêche que dans ces gens-là, tu peux avoir des gens qui soient intéressés aussi pour des services que tu peux proposer par ailleurs, etc. Et dans ce cas-là, on peut faire une segmentation a posteriori. Moi, une tactique que j'utilise, par exemple, c'est que je fais cliquer les gens sur un lien dans mes mails. Et tous les gens qui ont cliqué sur le lien, en fait, se retrouvent dans un segment spécifique, un segment podcast, un segment... j'ai des segments productivité, j'ai des segments comme ça. En fait, que d'ailleurs, il faut le dire, hein, les segments, c'est que les abonnés ne les voient même pas. Ils peuvent le constater en ayant des mails ou pas des mails. Mais dans ma base mail, par exemple, moi, j'ai des gens qui sont abonnés à Kilomètre 42 et qui ne reçoivent jamais les mails sur la création de contenu.
D'accord. Ok, bah oui, puisque ceux qui s'abonnent à Kilomètre 42 vont plutôt recevoir tes news relatives à ton podcast ou des news sportives plus que de la création de contenu. Ah mais tiens, d'ailleurs, ça m'amène à une question. Elle est où ta news du mercredi, ta newsletter Kilomètre 42 sport du mercredi?
La lettre du running. Ah ben ça c'est une bonne question, tu vois. Et ben ça fait partie des problématiques que j'ai en ce moment, c'est qu'en fait la dispersion des bases mail, là où vraiment il y a un aspect... En fait, je me retrouve avec trois newsletters. Donc, j'ai ma base mail, on va dire, de ceux qui ont rempli les lead magnets, grosso modo. Alors, par exemple, je vais donner des exemples de lead magnets. J'ai un lead magnet, en ce moment, c'est comment créer un podcast fascinant, avec des questions sur comment créer un podcast, pour les questions qu'on se pose avant de lancer un podcast. J'ai un lead magnet aussi sur des idées de contenu, pour remplir une idée de contenu toute l'année, tranquillement. Et j'ai aussi un lead magnet sur mes routines du matin, mes habitudes du matin. Donc j'ai trois lead magnets principaux comme ça qui tournent, plus un autre lead magnet qui est juste de dire inscrivez-vous pour avoir une formation permanente en recevant des conseils réguliers, etc. Et donc ça, en fait, ce sont des mails où si tu n'es pas abonné, tu peux pas voir les mails. Par contre, la lettre du running du mercredi, déjà elle est sur un autre outil qui s'appelle Review, dont j'avais parlé il y a très 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 longtemps, je crois, dans les épisodes de 30 ou 40. Et en fait elle était plutôt dans un optique de générer un peu de trafic sur le podcast, de générer aussi de la visibilité, etc., et d'attirer des gens un peu différents. Mais il y a des gens qui ne peuvent la voir sans s'inscrire, en fait, parce que une fois que tu as l'adresse, elle est relayée sur Twitter, etc. Le truc, c'est de dire bah, je vous la donne gratuitement, mais si vous voulez vraiment être sûr de ne pas la louper, vous vous abonnez. Le problème, en fait, avec ça, c'est que ça fait des bases qui sont séparées dans tous les sens. Alors je pourrais les reconnecter, honnêtement, mais ce que je recommande, c'est vraiment d'essayer d'avoir une base centralisée, segmentée, plutôt que d'avoir des bases dans tous les sens, parce qu'au bout d'un moment on s'y retrouve plus, ça devient compliqué à gérer, et en fait on manipule plusieurs outils et c'est un peu le bordel. Donc voilà, ce que je le dis, moi, Review pour faire du mail marketing, par exemple, n'est pas très adapté. Par contre, pour faire du mail éditorial, est intéressant. En plus, maintenant, on peut faire payer les mails, donc on peut même faire de l'accès aux mails payants. Mais ne séparez pas trop les bases dans tous les sens, en fait.
Mais dis donc, mais tu fais du podcast et tu crées du contenu, toi, parce que tu m'as fait une super transition pour la question que j'avais justement après.
Vas-y, je t'écoute.
Bah, la question un peu de base et auquel tu as un petit peu répondu, c'est quel outil on utilise en fait pour faire du mailing, pour gérer sa base de mail, pour la segmenter comme tu l'as dit, pour tenir les gens au courant. Enfin, est-ce qu'on fait ça dans un Gmail, est-ce qu'on fait ça dans un outil de messagerie type Outlook, ou au contraire on a des outils spécifiques pour faire ça?
Alors surtout, ne t'avise jamais d'envoyer tes mails depuis Gmail ou Hotmail ou Yahoo ou je ne sais pas quoi. Alors déjà, je sais pas.
Même en destinataire caché, ça marche pas.
Ça marche pas. Et alors, je vais même te dire mieux, c'est que tout à l'heure, j'ai regardé mes mails. J'ai quelqu'un qui m'envoie des mails depuis une adresse Yahoo. Et il me les envoie qu'à moi et ça tombe directement en spam. Donc tous les mails qui viennent de Yahoo chez moi arrivent en spam dans mon Gmail à moi. Non, en fait, on a des outils spécialisés. Alors le plus connu de tous, c'est Mailchimp. Parce qu'il est là depuis très longtemps. Et moi, je t'avoue que Mailchimp, j'ai beaucoup utilisé, mais je le déconseille. Quand j'étais sur Cyberbunia, mon activité sur Cyberbunia, c'était Mailchimp. J'envoyais tout avec Mailchimp. Qui a des fonctionnalités qui sont sympas, qu'on trouve pas ailleurs, notamment le fait de pouvoir envoyer un mail par mail. Alors ça, c'est un truc. T'envoies le mail à une adresse, ça le relaie à tout le monde. Ça, c'est génial. Mais mis à part ça, en fait, Mailchimp est très limité quand tu payes pas, pour ceux qui démarrent. Parce que ce qu'il faut le dire, c'est que la plupart des outils, en fait, sont payants et coûtent relativement rapidement, très cher. Okay. On peut parler des ConvertKit et compagnie, où très rapidement il y a des gens qui se retrouvent avec des factures de 50€ par mois pour envoyer des mails à 500 personnes ou à 200 ou à 300 selon les outils, selon les fonctionnalités que tu veux. On pourrait citer Céline Blue aussi, alors qui est moins cher, qui est français, qui a des... Donc moi je suis pas super fan de l'interface, tu vois. Moi mon outil de prédilection, c'est MailerLite. Pour une raison qui est simple, c'est que jusqu'à 500 abonnés, voire 1000 abonnés, c'est entièrement gratuit et tu as toutes les fonctionnalités, tu n'es pas bridé, tu peux faire de trucs automatiques pour que quand quelqu'un te demande ton lead magnet, ça s'envoie automatiquement, que tu puisses faire des séquences de mails de bienvenue pour lui souhaiter voici qui je suis, voici ce que je peux te proposer, etc. de jour en jour. Et puis surtout, c'est que sur tous ces outils-là, mais là c'est valable pour tous, tu as des statistiques, tu sais en fait... qui a cliqué sur les mails. Alors qui a ouvert les mails avec les nouveautés qui arrivent sur Apple Mail, j'en ai parlé dans un épisode, ça va être un petit peu freiné, ce truc là par contre, savoir si ton mail a été cliqué, qui a cliqué sur les mails, etc., c'est possible. Et ceux qui font des ventes en ligne, ils peuvent aussi le connecter. Par exemple, on peut savoir combien de gens ont acheté sur une boutique WooCommerce ou Shopify par rapport à un mail, tu vois. Sur Patreon, on peut pas trop le savoir, tu vois, ce truc-là. T'as pas le lien entre Patreon et les bases mail, parce que Patreon aussi, en fait, ils sont un petit peu jaloux de la relation. Ils ont intérêt à centraliser aussi la relation. Et finalement, sur Patreon, tu pourrais te dire, à chaque fois que tu fais un message, tu envoies un mail à tout le monde, et quelque part, t'as un système de mail, de newsletter. C'est juste que sur Patreon, en fait, tous les gens, ils sont payants, alors que sur du mail, en généralement, tu fais rentrer tous les gens en gratuit.
Mmh. Ok. Donc oui, quand tu dis payant, c'est pour l'utilisateur en fait, parce que ouais. Quelqu'un qui s'abonne à ton Patreon, quelqu'un qui veut recevoir les news Patreon, il va devoir contribuer à ton Patreon.
Oui, là alors, où même si où peut-être techniquement qui... on pourrait faire un Patreon gratuit, hein, je pense, on doit pouvoir mettre un palier à zéro, j'en sais rien d'ailleurs, à vérifier, pour avoir les news de base, etc. Pourquoi pas? Mais enfin, honnêtement, la plupart du temps, on a un palier à 1€ ou 3€, donc dans ce cas-là, les gens, ils auront les news en payant. Et là, on est dans la relation de fans et vraiment, c'est des fans, c'est plus des clients, etc. Donc, on est dans une relation un petit peu différente. Donc, mais après, je veux dire que tu as d'autres outils. Hein. On pourrait dire, par exemple, Substack, qui permet de faire du mail éditorial et du blog payant. Mélangé, en fait. Review, dont j'ai parlé sur la lettre éditoriale, qui sont des outils qui génèrent du mail. Et puis après, et pour te montrer l'intérêt du mail pour plein de gens, c'est que LinkedIn voulait mettre en place son système de mail, de newsletter. Facebook en a parlé aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Twitter a racheté Review. Donc c'est bien, ça montre bien aussi que les réseaux sociaux, ils se disent, il faut quand même qu'on mette un pied là-dedans, qu'on sait que qu'il y a des choses qui nous échappent et on doit le prendre en compte aussi. Donc, c'est un univers où il y a beaucoup d'outils. Après on en a d'autres, hein, parce qu'on a des outils français. On avait Mailjet, mais Mailjet a été racheté, alors je ne sais plus par qui, mais il demeure Mailjet en fait. Mais moi vraiment je te dis, mon truc à moi c'est MailerLite. Enfin, franchement, je le dis, c'est pour ça que dans les formations je parle toujours de MailerLite, etc. Parce que honnêtement, pour ce qu'il fait, pour le prix, c'est meilleur. C'est là où ça te prend le moins de temps à l'apprendre et ça te coûte le moins cher au départ.
Bah, c'était une de mes questions. C'est justement, en dehors de choisir un outil, comment est-ce qu'on fait pour le prendre facilement en main? Alors, j'imagine que tu vas proposer des formations sur MailerLite, puisque tu en parles tout le temps dans tous tes contenus. Mais comment est-ce qu'on prend facilement un outil en main? Ou alors, plutôt, tournons la question dans l'autre sens. C'est toi, tu conseilles tu conseilles quoi pour prendre bien en main un outil? Est-ce qu'il faut y passer 2 jours? Est-ce qu'il faut y passer 3 jours? Évidemment, tester, faire des actions dessus, mais est-ce que, oui, en 1 heure, tu crées un compte et puis tu peux envoyer tes premiers mails? Ou pour bien prendre en main, créer des scénarios, créer des répondeurs, etc., il faut plutôt s'y consacrer pendant 1 semaine? Est-ce que tu demandes à un copain de s'inscrire juste pour tester, pour jouer le bêta-testeur? Comment tu vois le truc?
Alors en fait, le problème c'est que c'est à plusieurs niveaux dans tes outils. Le premier truc c'est que de créer un compte, ça va prendre quelques minutes. C'est pas long. C'est juste, alors je dois le dire, il faut quand même que je précise un truc. Pour la plupart des gens en fait, ont du mal à se rendre compte, mais la plupart des services d'envoi de mail, que ce soit les MailChimp, MailerLite, etc., ne veulent pas des adresses type Gmail, Yahoo Mail et compagnie pour t'inscrire. Il leur faut une adresse avec ton nom de domaine à toi. Ça c'est un point qui est vraiment important, parce que derrière en fait ils vont s'assurer que t'es pas un spammeur, et donc t'as moins de chances d'être un spammeur avec une adresse que tu payes que plutôt qu'avec une adresse Gmail qui est gratuite. Donc ça c'est déjà un premier point. Donc déjà t'as une création de compte, un temps de validation, un temps de... des fois ils peuvent demander des petits trucs techniques mais qui vont pas prendre longtemps, mais on va dire que à partir de la première au bout d'une heure t'as un compte dans lequel tu peux déjà commencer à envoyer des mails. Le problème, c'est que tu n'as pas de contact à l'intérieur pour l'instant. Donc, la deuxième étape, ça peut te dire, bah, je vais importer certains contacts que j'ai, je sais qu'ils seront intéressés par recevoir mes mails. Donc, ça va te prendre... tu peux faire un export d'un Excel, d'un CSV ou n'importe quoi, ça va te prendre quelques minutes. Et donc, j'ai envie de dire, non, après, l'outil, ça ressemble à un outil de publication de blog, de publication de plein de trucs. Donc, envoyer des messages en 2 heures, c'est fait. C'est pas un problème. Après, pour tout ce qui est toutes ces histoires de collecter, avoir des lead magnets, etc. Donc, il y a tout ce qu'on appelle l'automation à mettre en œuvre. Mm-hmm. C'est pas très long en soi. C'est juste que la première fois que tu l'as fait, eh ben, c'est que tu sais pas le faire. Donc, il faut que tu apprennes. Et ce qui est logique. Donc, des fois, tu doutes un peu sur le bouton à mettre, etc. Comment je vais le mettre? Comment ça va marcher? Après, moi, j'ai une technique, en fait, c'est que pour tester, voir si ça marche, j'ai toujours une adresse mail à moi. Je regarde si ça marche. Et après, je l'efface, j'en remets une autre pour voir, etc., pour voir tous les différents scénarios. Après, les scénarios, ils ont toujours... tu as plein de variables dans les scénarios qui peuvent être mis en place avec des systèmes dans tous les sens. Et donc, ça te met toujours du temps à apprendre, mais ce qui est logique. Mais au départ, tu pars sur un truc qui est simple, c'est de dire, les gens, je dois faire un formulaire. Donc, les formulaires sont déjà tous faits en plus. Tu as juste à remplacer tes informations. Il te donne une adresse d'une page, ça va te dire, ça va se mettre dans tel endroit, et quand les gens ils ont rempli le formulaire, ils vont recevoir tel document ou tel mail. Tout est fait, tu as juste souvent à traduire, remplacer par tes informations à toi. Après, quand tu vas aller plus loin, eh ben oui, il faut passer un petit peu de temps dedans. Et puis ce qu'il faut dire aussi dans le mail, c'est que quand tu commences à aller dans cette logique-là, après tu vas dans ce qu'on appelle les tunnels, avec des tunnels de bienvenue dans les mails, et tu vas te rendre compte en fait que tu as des pourcentages de mails qui marchent mieux que d'autres, t'as des endroits où ça marche mieux, etc. Et que dans ce cas-là, il faut que tu les affines un petit peu. Donc c'est un travail dans le temps pour dire, ah bah, ce mail-là, je me rends compte que les gens ils répondent pas, que ce mail-là en fait il est pas cliqué, il est pas ouvert, etc. Faudrait que je le tourne un petit peu différemment. Et donc tu vas apprendre aussi à lire les statistiques de tes mails, de voir un petit peu ce qui se passe.
Bah justement, c'était une des questions que j'avais, c'était qu'est-ce qu'on fait des stats? Parce que bon, on a trouvé un outil, on a constitué notre base, on a 5, 10, 100, 200, 10 000 personnes. Ouais, génial, j'ai plein de fans et des super fans. Je commence à entretenir une certaine relation avec eux, j'envoie des mails, éventuellement je commence à faire des scénarii, et puis bah les stats, j'en fais quoi? Qu'est-ce que je fais pour justement affiner mes scénarii, pour affiner mes mails, pour savoir quel type de mail va être cliqué? Est-ce que c'est plutôt le titre qui plaît? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est le call to action, donc le bouton que je vais mettre dans le mail qui va faire quelque chose? Ou peut-être est-ce que c'est ça qui va les rebuter? Comment on analyse les stats de tous ces outils?
Et ben, en fait, la grande avantage, ces outils-là te donnent des chiffres. Donc, tu vas pour commencer par avoir des chiffres. Les premiers chiffres étant le taux d'ouverture et le taux de clic. Alors, je leur dis, hein, c'est que sur Apple Mail, ils sont en train de modifier les choses. Donc, l'ouverture dans tous ceux qui utilisent un iPhone ou un iPad ou Apple Mail pour voir les mails, on n'aura plus le taux d'ouverture, ce qui représente la moitié du marché sur certains, dans certains cas. Voilà, bon, mais c'est pas très grave en soi. J'avais donné des tactiques dans un épisode précédent, donc je mettrai un lien là-dessus. Ce que tu vas pouvoir analyser, par contre, c'est le taux de clic. Parce que le taux d'ouverture, il montre si le mail a été ouvert. Et après, ce qui va t'intéresser, c'est le taux de clic dans les liens qu'il y a dans ton mail. Et après, il y a un autre endroit où tu vas pouvoir le mesurer, mais ça va dépendre aussi de ce que tu fais. Par exemple, si tu fais de la vente en ligne, tu vas voir si les ventes de ton produit augmentent. Si oui, tu mets un lien vers un bouton, vers une formation dans mon cas, quand j'envoie un mail le soir, j'ai 10 ventes, ça veut dire que je peux être sûr à peu près dans tous les cas que ça vient de là, parce que c'est l'augmentation et bien de ça, etc., que les gens n'ont pas connu autrement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, après, c'est que dans les trucs genre Google Analytics, il y a ce qu'on appelle des UTM, donc qui sont des trackers de suivi. Et en fait, les outils d'envoi de mail, ils mettent un petit tracker et tu sais que la source, elle vient d'un mail, tu peux pister le mail, etc. Et par exemple, tu sais quand dans ton site, tu sais si quelqu'un vient par un mail que tu as envoyé, quel est le mail qu'il a envoyé, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Quand tu as de la boutique en ligne, tu peux regarder les ventes. Même un outil comme MailerLite, tu as même un plugin qui permet de dire tel mail envoyé a généré tant de chiffre d'affaires avec tel temps de produits. Tu sais qu'un abonné t'a rapporté tant d'argent, etc. Donc ça, tu peux le savoir. Donc c'est un élément qui est intéressant. Après, par exemple, si c'est du YouTube, tu vas voir si ton pic de vue des vidéos, il augmente ou pas directement. Tu vois, l'autre jour, j'ai fait une vidéo le lundi. Le lundi soir, j'envoie un mail. Dans la journée, j'ai plus de vues de mes vidéos que toutes les autres vidéos d'habitude. Donc là, je sais, même si j'ai pas le chiffre dans l'analytics, je l'ai un petit peu, mais dans les sources, mais pas si facilement que ça. Mais je le sais quand même, tu vois, je le vois un petit peu. Là où j'aurais plus de mal à le voir, c'est si je voulais booster la visibilité d'un post sur Instagram. Statistiquement, tu peux pas le savoir. Par contre, je saurais toujours dans MailerLite ou dans l'outil que tu vas utiliser, c'est si les gens ont cliqué sur le lien. Donc ça, tu le sais. J'ai tant de personnes qui ont cliqué sur le lien. Et après, ce que tu peux faire, c'est soit tu gardes les données dans tes outils, soit tu fais des tableaux. Et notamment, il y a un tableau qui est intéressant à faire, je pense que c'est un tableau de dire quels sont les mails qui ont le plus gros taux d'ouverture et le plus gros taux de clic, et qu'est-ce qu'ils contenaient et quel était leur titre. Et puis tu pourrais dire aussi à quelle heure tu l'as envoyé. Parce que l'heure peut jouer un petit peu de temps en temps, mais faut se rappeler un truc sur le mail, c'est que tu ouvres un mail quand tu connais l'expéditeur, que tu as confiance en lui et que le sujet t'intéresse. Donc normalement, ça c'est le taux d'ouverture. Et le taux de clic, c'est quand le sujet du mail t'intéresse. Si tu as un bon taux d'ouverture, un très faible taux de clic, c'est que ton mail il est un peu pourri, ça, ou que l'offre elle n'intéresse pas, ce que tu dis elle n'intéresse pas, ou que tu n'as pas mis de lien. Hein. Moi j'ai des mails où il n'y a aucun lien dedans. Si tu as un faible taux d'ouverture, un très gros taux de clic, tu te dis oh, c'est dommage, j'aurais eu un meilleur taux d'ouverture, j'aurais eu beaucoup plus de clics. Et donc là, tu sais que c'est ton titre que tu dois améliorer, ou ton heure, ou le moment où tu l'as envoyé, ou autre. Et si tu as à la fois un gros taux de clic, un gros taux d'ouverture et un gros taux de clic, et tu peux te dire
là, t'es le roi du pétrole.
Tu peux te dire que si tu vends quelque chose, ça marchera bien pour toi. C'est que tu as bien tapé juste, en fait. Voilà.
Okay.
Donc, moi, j'avais commencé à faire des tableaux dans Notion, où dans lequel je mettais le titre, la date, le titre et le taux d'ouverture et le taux de clic, des liens dedans, pour avoir une idée. Parce que notamment, ça permet, tu peux le faire dans Excel, en fait, tu peux classer, tu peux te dire, tiens, quels sont mes mails qui ont eu le plus gros taux d'ouverture. Et à partir de là, tu vas te rendre compte que souvent, c'est soit la même thématique, soit le même type de titre, soit c'est ceux du dimanche, soit ceux du lundi, soit du jeudi. Tu vois, il y a toujours une histoire dans ce genre-là qui va jouer. Et ça peut jouer beaucoup parce que tu parlais tout à l'heure de la lettre du running. Mes lettres du dimanche, par exemple, je me suis rendu compte que des fois, j'ai 20 points d'écart de taux d'ouverture sur les mails et que ça vient du titre parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans.
D'accord. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Hein. J'étais venu avec plein de questions, tu m'as répondu à pas mal.
Ouais.
Et puis en plus, on s'était donné 20 minutes, on en est déjà à plus de 30. Donc,
ouais,
faut
écoute,
que je te laisse. Là.
C'est le format. Et je le dis, hein, moi, je compte pas trop le temps, etc. En tout cas, je te remercie pour les questions. Parce que c'est vrai que quand on est dedans, on se rend pas trop compte des fois des questions, etc. On se dit, ouais, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que le mail, c'est un outil qui est très 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 intéressant à manier, même quand on n'a rien à vendre et même quand on débute au tout départ. Il y en a certains qui hésitent à faire du mail quand ils commencent leur projet, et pourtant les premières personnes qui découvrent ton projet peuvent être intéressées et avoir des mails dès le départ. Et en fait, derrière, ce qui est intéressant, c'est de se dire le mail, ils peuvent le faire suivre à leurs amis, te recommander, le montrer, etc. Et ça peut être un vrai booster de visibilité pour des projets. Donc c'est dommage de ne pas l'utiliser, surtout quand tu peux avoir des outils qui te le font gratuitement.
Ouais. Moi, je dirais que pour conclure, l'année dernière, à l'été, je me suis lancé dans un test de mail quotidien que j'ai tenu pendant presque 2 mois. J'ai un peu créé une base mail sauvage, comme tu le disais, avec mes amis, mes contacts proches, quelques contacts LinkedIn, etc. Et j'avais pas forcément de grand intérêt pendant que j'envoyais les mails. Par contre, quand j'ai arrêté, et je l'ai arrêté brutalement sans forcément prévenir, il y a eu quelques dizaines de personnes qui m'ont dit « Bah, il est où ton mail quotidien ? Ça fait quelques jours que je le vois plus. » Et donc, je regardais pas forcément les stats. Je le faisais plus pour moi, pour apprendre à me fixer une routine d'écriture et autres. Mais ça fait quand même plaisir de voir que bah, finalement, tu envoies pas dans un seau vide. Et puis, il y a quand même des gens qui lisent.
Oui, et bah, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est de leur envoyer un mail pour dire où t'en es de la grippe. Hein.
Exactement, c'est
alors,
prévu.
Ce que je te propose pour finir, c'est que tu dis juste où est-ce qu'on te retrouve pour ceux qui voudraient d'ailleurs découvrir ton projet Agrippa. C'est quelle adresse ?
C'est sur agrippa, agrippa.me. Et puis, eh ben, vous trouverez un formulaire d'inscription à la liste mail, évidemment.
Eh bien, écoute, en tout cas, Hermano, je te remercie beaucoup pour ces questions et d'avoir participé à ce premier nouveau format hein, de Ask Bertrand avec un nouveau format. Je rappelle alors à tous ceux qui le veulent, qui peuvent bien sûr m'envoyer un petit message s'ils veulent participer. Le principe, voilà, c'est que vous m'envoyez un petit message, vous venez avec 2-3 questions, on en discute, on échange comme ça dessus, ça vous permet vous d'avancer, ça permet à tout le monde d'avancer parce que, et je suis sûr que dans toutes les questions que tu m'as envoyées, il y a 80% des gens qui s'intéressent au mail qui ont les mêmes questions. Honnêtement. Bon. En tout cas, merci à toi. Je te laisse t'entraîner hein, parce que là, je pense que t'as de l'entraînement hein, si tu vas arriver à boucler ton projet.
Ouais, j'ai encore un peu de boulot, donc c'est aussi pour ça que je suis dans le sud, pour profiter du beau temps et récupérer un petit peu, non seulement en termes de fatigue, mais aussi en termes d'entraînement.
Eh bien écoute, bon entraînement, travaille bien sur tes mails, travaille bien sur ton projet, et on se retrouve très bientôt. Ciao.
Ciao.
Voilà, cet épisode est terminé. Si vous avez apprécié notre discussion et mes conseils, que vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que la formation se trouve à votrecoachweb.com/aimant, A-I-M-A-N-T, votrecoachweb.com/aimant. À tout de suite les créateurs.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.